Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, mais aussi par internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, ce sera la chronique éducative À propos. Et nous continuerons avec la série d'émissions hebdomadaires Espérance. Et là, ce sera avec Philippe Delez. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. Grâce au traitement, les patientes souffrant d'un cancer du sein métastatique peuvent vivre de plus en plus longtemps. Une série de témoignages nous offre la possibilité de mieux cerner leur quotidien, leur parcours et leurs besoins. Au total, chaque année en France, 58 500 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués. Dans 5% des cas, ils sont d'emblée métastatiques. Par ailleurs, 20 à 30% des patientes sont à risque de présenter cette évolution. Si le cancer du sein métastatique ne peut se guérir, de récentes avancées thérapeutiques reposant sur les inhibiteurs de CDK4-6, des traitements oraux pris à domicile, associés à l'hormonothérapie, permettent de mieux contrôler sur la durée les formes hormonodépendantes de la maladie, tout en préservant la qualité de vie des patientes. La gestion de la maladie, des traitements, des effets secondaires et du quotidien a un impact non négligeable. En effet, selon une enquête, 74% des patientes souhaitent que la charge mentale liée à la maladie soit reconnue et 66% aimeraient que leur cancer soit mieux connu du grand public. Toute une série de témoignages nous plonge dans le quotidien des patientes. Ils sont issus du projet Hashtag Meta, créé par Pfizer en collaboration avec le collectif 1310 qui rassemble plusieurs associations proposant un soutien aux femmes touchées par le cancer du sein. Vous pouvez retrouver ces témoignages en vidéo ou en audio aux côtés de la prise de parole d'oncologues et d'une vidéo de présentation du collectif 1310 sur le site www.pfizer.fr et sur les réseaux sociaux. Comme celui de Valérie, 48 ans, bénévole pour l'association Vivre comme avant. L'annonce a bouleversé ma vie, mais je me suis reconstruite avec cette nouvelle donne qui est le cancer du sein métastatique. Aujourd'hui, j'ai une vie différente mais tout aussi belle. N'ayons pas peur de cette maladie, d'en parler et de nous lancer dans de nouveaux projets. À noter que pour soutenir, accompagner et répondre aux besoins des patientes, le laboratoire Pfizer a mis au point de nombreux outils à travers son initiative Synchrone. Sur laviotour.fr par exemple, elles pourront géocaliser des associations proposant des soins de support proches de leur domicile. Enfin, sur pactonco.fr, elles trouveront des informations pour mieux appréhender la maladie et sa prise en charge.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. Ce 26 octobre est marqué par la première journée mondiale de l'amylose, une maladie rare aux symptômes peu spécifiques, résultat une errance diagnostique importante, synonyme de perte de chance. L'amylose est une maladie où des protéines vont s'accumuler et se déposer dans les organes et les tissus. Il n'existe pas une mais plusieurs amyloses. Intéressons-nous à celle appelée amylose à chaîne légère, qui se caractérise par un excès de production de fragments d'anticorps anormaux appelés chaîne légère. Une fois sur 100, cette chaîne va s'empiler et se déposer dans les tissus et les organes. À terme, cette amylose va toucher différents organes vitaux. Les deux atteintes les plus fréquentes sont le cœur et les reins. Le patient risque alors de présenter des essoufflements, une fatigue, des troubles du rythme. L'insuffisance cardiaque est la principale cause de décès de l'amylose à chaîne légère. L'œdème est le premier signe au niveau rénal. Sans traitement, la maladie va malheureusement évoluer et détruire peu à peu le rein. Si la prise en charge est précoce, il est possible de normaliser les paramètres rénaux. En France, les patients peuvent être pris en charge au sein de structures spécialisées. C'est le cas du Centre National de Référence Amylose AL et autres maladies à dépôt d'immunoglobine monoclonale. Le fait d'être suivi dans le parcours de soins permet de bénéficier de la meilleure expertise possible, d'autant que des progrès considérables ont été réalisés en termes de recherche et donc de prise en charge, toujours à la condition de détecter les patients le plus tôt possible. D'où l'importance de réduire les délais avant le diagnostic de la maladie. Pour plus d'informations, consultez le site de l'Association française contre l'amylose, l'AFCA, à amylose.asso.fr.
Vous aussi, votre santé vous intéresse ? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être, des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
The Voice of Hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé 10 jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement? Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Destination Santé que vous retrouverez sur cette même antenne dès vendredi prochain. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77 193 Damary-les-Lys, Cedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec la chronique éducative À propos, et nous terminerons avec Philippe Delez pour l'émission Espérance.
À propos, pour éduquer moins bête.
À propos, connaissez-vous le pouvoir des habitudes? Comment pourrait-on définir une habitude? D'après Rudolf Dreikurs, célèbre éducateur et psychiatre nord-américain, les routines quotidiennes sont pour les enfants ce que les murs sont à une maison. Elle leur donne des frontières et la dimension de la vie. Aucun enfant, ajoute-t-il, n'est à l'aise face à une situation qu'il ne connaît pas. La routine lui donne donc une sensation de sécurité. Les habitudes bien établies lui donnent un sentiment d'ordre duquel va naître la liberté. Ainsi, un tout petit ne connaît pas le monde dans lequel il vient de faire son entrée. Les premiers mois de sa vie sont une découverte constante de son nouvel environnement. Ses parents et autres adultes, qui s'occupent de lui, sont ses premiers guides dans l'existence. Il est donc essentiel d'organiser un univers stable, avec des horaires fixes, des habitudes, des routines et des activités qui se répètent, pour que l'enfant acquiert des connaissances de manière sûre et quasi inconsciente. Ce cadre fait de répétition et d'ordre va lui apporter un sentiment de sécurité. Or, c'est précisément ce sentiment de sécurité qui le met en confiance pour avancer dans la découverte de sa vie. Outre ce sentiment de sécurité qui rassure et apaise l'enfant, les habitudes et les rituels vont lui inculquer les notions de régularité, constance et persévérance. Ainsi va-t-il découvrir le sentiment de joie et de satisfaction en faisant quelque chose qu'il connaît, qu'il perfectionne et qu'il finit par maîtriser à la perfection dans un climat calme et apaisé. Cette pratique va l'aider à développer une bonne image de lui en découvrant de quoi il est capable. Enfin, les routines sont importantes pour la formation psychologique et physique de l'enfant. Ainsi, les heures de repas et de sommeil, l'hygiène et toutes ces petites habitudes en lien avec ces rituels basiques sont indispensables pour que l'enfant soit éduqué et qu'il apprenne à couvrir l'ensemble de ses besoins. L'enfant assimile petit à petit cette organisation, calmement et à son rythme. Cela va le structurer en lui apportant des schémas, des pratiques, des aptitudes et des compétences qui lui seront utiles pour appréhender son environnement et pouvoir y vivre. Rudolf Dreikurs, en démontrant l'importance de la création d'un monde stable et sûr pour les plus petits d'entre nous, a permis de comprendre que c'est à partir de ce cadre, stable et sûr, que l'exploration de l'univers via la découverte est pleinement possible. Il va même plus loin, en mettant en évidence le lien entre prévention et évitement de mauvais comportements chez les futurs adultes et la mise en place, dès la toute petite enfance, d'habitudes et de rituels. Elles sont en effet le socle apportant stabilité nécessaire à tout développement. Au fur et à mesure de sa croissance, l'enfant devient adolescent puis jeune adulte. Au fur et à mesure de cette croissance, il va petit à petit convertir ses acquisitions et les faire pleinement siennes. Au cours de ce parcours vers l'âge adulte, il va commencer par les vivre, comme nous l'avons vu, mais très vite, il va les questionner. Tout d'abord auprès du parent, puis du référent responsable de telle habitude ou rituel. Le professeur, l'instituteur, le directeur, mais peut-être aussi le prêtre ou le pasteur ou l'imam. Il va questionner la pertinence de ces pratiques. Or, même si cela peut être inconfortable du coup pour l'adulte confronté à ces remises en question, elles sont une bonne chose dans la construction de l'adolescent et du jeune adulte. Il ne s'agit pas de tout abandonner pour lui, mais bien de passer par un processus qui lui permettra de se les approprier pleinement. L'habitude ou le rituel, qui est vécu au départ comme un automatisme, à la fois rassurant et structurant, va peut-être le demeurer ainsi. Ainsi, se brosser les dents est une bonne habitude, et questionner ses bienfaits est vite dépassé, même si j'en conviens qu'à l'adolescence, cela semble encore peu acquis. Mais l'habitude et le rituel, questionné par l'adolescent, lui permet de quitter un fonctionnement fait de conformisme et d'automatisme, qui peut être source d'immobilité, voire d'inertie. Le questionnement permet de ne pas réduire l'habitude ou le rituel à une fin en soi. Ça se fait, ça s'est toujours fait comme ça, etc. Cela permet à l'habitude et au rituel de devenir un moyen. Cette évolution dans la compréhension de la place de l'habitude dans sa vie permet d'en faire un facteur de progrès, un outil pour réaliser des objectifs. Pour cela, l'adolescent, cheminant vers l'âge adulte, apprend à vouloir continuer de pratiquer tel ou tel rituel. Il n'est plus dans l'automatisme, mais dans la pleine conscience de ses choix, et il sait pourquoi il a choisi de les garder et de continuer à les intégrer dans sa vie. Dans cette maturation, il va acquérir de la force, de la spontanéité, de l'attention et de la réflexion. Il va saisir l'intérêt de l'ordre et de la régularité, de l'organisation et de la persévérance dans une certaine répétition. Aristote le résuma ainsi. Nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Habitudes et rituels sont donc un beau cadeau à offrir à nos enfants dès leur plus jeune âge, et leur permettre de les interroger permet de les valoriser pour en faire un outil pertinent et utile dans leur exploration de l'existence.
C'était À propos, présenté par Anna Orouz.
The Voice of Hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Oh, oh.
C'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était À propos que vous retrouvez chaque mardi sur cette même antenne. À présent, c'est avec Philippe Delez que nous terminerons pour l'émission Espérance.
Thank you.
Et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur cette fréquence pour partager cette émission autour de la thématique de l'espérance et toujours avec notre interlocuteur Philippe Délé. Bonjour.
Et bonjour Gaël.
Je rappelle à tous nos auditeurs que nous poursuivons cette série sur l'explication actuellement du verset 14 du chapitre 8 du livre du prophète Daniel. Nous parlons d'une prophétie qui parle d'un thème intitulé « Les 2300 soirs et matins ». Alors, lors de notre dernière émission, vous nous aviez expliqué, Philippe, qui était concerné par le jugement dont il était question. Par la Bible, vous nous aviez démontré que nous paraîtrons tous au jugement et vous nous avez dit que Dieu était aussi impliqué, non seulement dans le problème du péché, mais de surcroît qu'il se retrouvait sur le banc des accusés lui-même.
Effectivement, Dieu accepte de prendre sur lui cette accusation. De ce fait, il se trouve impliqué injustement dans le problème du péché. Et il était bel et bien sur le banc des accusés jusqu'à la croix. Alors, je vous invite à écouter ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens. Lisons le chapitre 2, à partir du verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est magnifique et même mystérieux. Et je ne sais pas si nous comprendrons un jour ce qu'il s'est passé ici. Dieu, Créateur, concepteur de l'univers, roi de l'univers et en dehors de cet univers, et lorsque vous considérez la taille de l'univers, cela permet de prendre conscience de la grandeur de Dieu, mais aussi de la gravité du péché pour qu'il intervienne lui-même, et de cette manière, prendre une forme humaine, s'incarner, sur ce grain de poussière et venir mourir sur une ignoble croix. Il n'y a pas de qualificatif pour cela, et je vous invite vraiment à réfléchir à cela.
Oui, ça dépasse effectivement notre compréhension. Mais du coup, était-il obligé de le faire, d'aller jusque-là, jusqu'à la mort de la croix? Et puis, par ailleurs, puisqu'il pardonne, Dieu a-t-il besoin de juger?
Alors d'abord, écoutez ce merveilleux verset de l'apôtre Jean qui est très connu, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, pour répondre à votre question, oui. Par amour pour ses créatures et parce qu'il est Dieu, il était obligé de le faire. Et oui, il pardonne, mais Dieu ne peut pardonner qu'à ceux qui croient en lui et qui le lui demandent. N'oublions pas le fait que la race humaine est en sursis. Nous vivons notre seconde chance. Et je vous avais dit lors de notre dernière émission que nos premiers parents, Adam et Ève, auraient dû mourir immédiatement après leur désobéissance. Et que Jésus-Christ s'est interposé et c'est grâce à cela que les humains vivent encore aujourd'hui. Cette grâce a coûté cher à Dieu. Jésus, innocent, est venu sur cette terre souffrir et mourir atrocement. Il est venu accomplir le rituel du sanctuaire. Il a versé son sang. C'était le prix à payer et il est tout à fait normal que justice lui soit rendue. Alors pour répondre à votre question, oui, comme tout gouvernement de notre planète qui exerce des jugements par des tribunaux, le gouvernement céleste, lui aussi, a son tribunal et exerce le jugement. Et puis, Gaël, à quoi servirait la loi et les 10 commandements s'il n'y a pas de justice? Et puis sa mort innocente réclame une justice, donc un jugement, sinon il n'aurait pas eu besoin de mourir. Encore une fois, le problème du péché est grave et il doit être traité avec toutes les conséquences qui en découlent.
Oui, ça paraît logique. Maintenant, une autre question. Où est-ce que va avoir lieu ce jugement?
Eh bien, la Bible nous renseigne. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 76, au verset 9, il est écrit « Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. » Et puis, dans le premier livre de Samuel, il nous indique également d'où Dieu exercera son jugement. Chapitre 2, verset 10, il est dit « Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. » En fait, là, nous voyons que Dieu juge depuis le ciel. Et reprenons le livre du prophète Daniel au chapitre 7. Rappelez-vous, nous sommes dans la description de la petite corne. Daniel est dans une vision céleste et le verset 9 de ce chapitre 7, il est écrit « Je regardais pendant qu'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et des roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient à sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je vous rappelle que lors de notre émission numéro 8, nous avions également évoqué ce qu'étaient ces livres.
Oui, nous invitons d'ailleurs nos auditeurs à retourner dans ces quelques émissions pour y retrouver tous ces détails. Pour poursuivre, peut-on assimiler l'endroit où se trouvent ces trônes comme étant le lieu du jugement ?
Eh bien, je vous rappelle que Daniel est en vision et qu'il voit plusieurs scènes à la fois. Et dans ce cas, il voit dans le ciel l'installation de ces trônes. La Bible s'expliquant par elle-même, alors allons voir ce que nous disent les Écritures concernant ce trône. Dans le psaume 11, au verset 4, il est dit « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. » Déjà, ce psaume confirme que le trône est bien dans le ciel. Et dans le psaume 9, au verset 5, il nous dit « Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. » Et dans ce psaume aussi, nous voyons que Dieu rend justice depuis son trône. D'ailleurs, nous trouvons une précision dans le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Et chacun fut jugé selon ses œuvres.
Alors, ce jugement, quand a-t-il lieu ?
Eh bien, cette fois, nous arrivons à la réponse de 2300 soirs et matins de Daniel 8:14. Ce jugement a commencé en 1844 lors de la purification du sanctuaire céleste. Nous avions évoqué le rituel du sanctuaire terrestre et la fête du Yom Kippour ou la fête des expiations qui était pour les Israélites également le jour du jugement de Dieu.
Sur cette base, pouvons-nous définir le jugement, le début de ce jugement à ce moment-là ?
C'est déjà une bonne base. Et la prophétie réalisée des 70 semaines la consolide. Mais nous avons aussi une autre prophétie que nous avons lue, mais que nous n'avons pas encore évoquée. Et celle-ci confirmera la période après laquelle le jugement doit commencer. Je vous invite à relire Daniel chapitre 7. Et nous sommes confrontés à la petite corne, au verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera des saints du Très-Haut et il espéra changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Alors concernant les saints, nous avions déjà expliqué qu'il s'agissait des enfants de Dieu vivant sur la terre. Et ici, la suite du verset confirme que ce sont eux les victimes de cette petite corne. Et nous avions également développé ce qui concerne changer les temps et la loi. Alors maintenant, il faut que nous expliquions ce qu'il en est d'un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Et cela nous amènera à la proximité du jugement.
Alors, je pense, Philippe, que cela fera l'objet d'une prochaine émission, faute de temps pour aujourd'hui. Mais comme traditionnellement, maintenant, je vous propose de nous donner un dernier mot pour conclure.
Avec plaisir, Gaël. Suite à ce que nous venons d'entendre, je désire rassurer nos auditeurs. Alors, laissons encore une fois parler la Bible et lisons le verset 16 du chapitre 4 du livre des Hébreux. Et ce verset parle de Jésus. Je vous lis. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et puis, je ne peux pas m'empêcher de vous lire ce verset du merveilleux psaume 34, le verset 22, « L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera tenu pour coupable. » Celui qui se confie sincèrement en Jésus, qui change d'attitude et qui fait la volonté de Dieu, ne subira aucune condamnation.
Eh bien, merci Philippe, à très bientôt.
Au plaisir Gaël, merci, au revoir.
sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Notre émission est maintenant terminée. C'était La Voix de l'Espérance sur la Radio Mondiale Adventiste. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz, bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et à 20h sur les 9780 kHz, bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.